Bonjour. Oui, je vais parler des concepts, la transposition didactique des concepts liés à l'évolution. Alors, l'évolution rend compte de la diversité du vivant, des variations qui se passent au niveau génétique, au niveau de l'habitat, du milieu des écosystèmes et au niveau des espèces. Pourtant, même si la biodiversité est une des caractéristiques la plus visible de l'évolution, ça n'empêche pas que développer une explication pour rendre compte de cette biodiversité actuelle et de la biodiversité passée est un véritable défi cognitif. En fait, il faut avoir vraiment conscience lorsqu'on enseigne l'évolution, lorsqu'on travaille sur l'évolution, de penser que la théorie de l'évolution est simple. Et aujourd'hui, en fait, comprendre l'évolution, ça implique non seulement de maîtriser tout un ensemble de concepts difficiles, mais aussi de coordonner des styles de pensée différents, des conceptions différentes de notions aussi fondamentales que la causalité ou l'explication, des questions d'épistémologie, de méthode et des multiples perspectives de recherche. Car l'évolution est sans doute la théorie donc centrale qui coordonne l'ensemble des sciences du vivant, mais aussi la plus prolifique en termes d'ouverture de champs de recherche. Et elle fait intervenir donc tout un réseau de disciplines actuelles qui vont de la génétique aux mathématiques appliquées, à la géologie, la chimie, etc. Donc, toutes les recherches se développent dans de multiples dimensions, ce qui fait que enseigner l'évolution à partir des classes du primaire, c'est quelque chose qui est pas simple. Donc, j'ai fait un petit peu de bibliographie sur ce qui se passe aux États-Unis pour un petit peu changer par rapport aux études didactiques qui sont évoquées régulièrement et qui se passent sur le contexte français. Donc je voulais vous apporter un autre éclairage sur la situation américaine et qui montre que donc il y a beaucoup d'études en didactique, hein, en philosophie des sciences, en épistémologie, sur le sujet de l'évolution, bien sûr, parce que il est socialement vif, on va dire, aux États-Unis, et qui suggère donc que la prise en compte de l'évolution comme une explication pour la diversité du monde présente tout un nombre de challenges conceptuels, et ces challenges sont symptomatiques des relations complexes qui se produisent entre à la fois les micro-processus de la sélection naturelle et des variations génétiques au niveau des individus, et jusqu'au niveau des espèces, des interactions entre les organismes et l'environnement dans l'espace et dans le temps, et aussi dans les processus macro-évolutifs, donc qui se passent dans des temps longs au niveau des populations au-delà des espèces. Donc il y a beaucoup de ces concepts de hasard, de variation, d'adaptation, d'évolution, de sélection, j'en ai mis quelques-uns là en bas. Oui, sont considérés comme contre-intuitifs. Donc, ils sont de vrais supplices pour le raisonnement ordinaire. Et il faut vraiment avoir conscience de cette difficulté avant d'imputer les difficultés d'enseigner l'évolution sur des questions sociaux ou culturelles. Ils ont du mal, en fait, à être acceptés par les élèves aux États-Unis, même après plusieurs années d'enseignement, parce que l'évolution serait pensée naturellement comme un principe finaliste. Ces difficultés seraient donc de nature donc cognitive. J'ai fait un petit résumé. Il y a eu une revue qui a été publiée par NAS, la National Academy of Science, en 2005, qui répertorie un petit peu les conceptions et les grandes difficultés au niveau de l'enseignement de l'évolution aux États-Unis. Donc, je vous ai parlé donc des problèmes au niveau de la microévolution, de la macro et au niveau donc des temps et au niveau des écosystèmes. Donc, les plus grandes difficultés sont des difficultés d'ordre téléologique. Hein, Donc c'est l'évolution. Alors ça a été fait entre 5 et 12 ans.
Avec la souris, tu peux.
Oui, je peux. Donc l'évolution, les grandes conceptions américaines, c'est que, un, les croyances théologiques, donc l'évolution représente le progrès, ou bien les individus sont capables de se transformer en réponse à leur perception de leurs besoins, ou bien les espèces sont statiques, essentielles, ou bien elles apparaissent comme ça, ou bien les espèces actuelles proviennent, c'est ce qu'on appelle l'essentialisme hollywoodien, un petit peu de l'évolution des dinosaures. Hein. Beaucoup de difficultés qui ont été identifiées au niveau de la compréhension de ce que sont les variations intraspécifiques, hein, les mutations qui se produisent au hasard et qui agissent dans les populations. Deuxième gros problème d'obstacle, on va dire, dans la compréhension, obstacle épistémologique, donc difficulté de comprendre ce qu'est le temps profond, de ce que veut dire les environnements passés, de se représenter l'histoire passée. Et aussi un gros problème au niveau de l'enseignement, de l'écologie. Il y a très très peu de connaissances qui sont divulguées sur les écosystèmes, les relations entre les organismes et les milieux, ce qui fait qu'en fait ils ont beaucoup de mal à comprendre les notions d'adaptation, de niche écologique, de dynamique des systèmes, des écosystèmes, de ce qui se passe dans les écosystèmes, le transfert entre l'influence de biotique, en fait, le transfert matière-énergie au niveau des organismes dans les milieux, de la distribution spatiale des éléments dans les écosystèmes, dans le temps et dans l'espace, et les grandes forces évolutives qui exercent le temps long sur les milieux. Au total, de cette revue, il semble que la grande difficulté dans l'apprentissage de l'évolution, c'est donc pas de mémoriser des concepts de façon isolée et d'acquérir des connaissances factuelles ou de comprendre chaque concept un par un, mais c'est d'apprendre à en faire la synthèse de manière efficace et durable et d'arriver progressivement à coordonner tout un réseau d'idées selon un discours cohérent. Et pourvu de sens logique. Donc pour enseigner l'évolution, évaluer l'apprentissage, faire une évaluation formative, donc c'est également le caractère synthétique de ces relations qui constitue une vraie difficulté pour les enseignants. D'où l'importance partagée par de nombreux chercheurs didacticiens aux États-Unis de construire un enseignement qui s'attache en priorité au fondement de la théorie et au processus, au mécanisme de l'évolution, qui serait basé sur l'apprentissage de big ideas, donc d'idées fondatrices, de concepts centraux, tout le long de la scolarité. Cet enseignement est basé sur un certain nombre de travaux en psychologie cognitive, et bien sûr sur donc il y a pas mal de néo-piagétiens aux États-Unis et sur donc bien sûr la théorie constructiviste des concepts centraux, donc il y a toute une communauté qui gravite autour de Chomsky, de Case, Griffins de la théorie des concepts centraux, etc. Il y a différents courants d'idées pour essayer d'expliquer la mise en place des structures cognitives chez l'apprenant. Parmi ces différentes propositions, il y a l'idée d'arriver à construire justement un système basé sur très peu de concepts, mais des concepts fondamentaux qui vont permettre ensuite d'élaborer des connaissances plus fines au niveau de l'évolution. Et notamment, d'arriver à distinguer les différentes entités qui concernent l'évolution. Et ce serait un des problèmes conceptuels qui rendent compte des difficultés au niveau de l'apprentissage de l'évolution, c'est la confusion entre ces trois différentes entités qui participent à l'évolution. Donc d'abord, faire bien la distinction entre l'objet de l'évolution, la cause, et les conséquences de l'évolution. Donc l'objet, ce sont des entités sélectionnées qui se passent au niveau des individus, c'est les variations au hasard qui se produisent au niveau des individus dans les populations, ce qui génère une biodiversité. Les causes la sélection naturelle, c'est bien les compétitions entre les individus dans les populations. Et les conséquences, c'est l'évolution des populations, pas l'évolution des individus. Donc l'évolution se produit jamais au niveau individuel, l'évolution se produit au niveau des populations. Donc il y a confusion entre ces trois différentes entités qui participent à la sélection naturelle et à l'évolution et qui expliqueraient les grandes difficultés de l'apprentissage. En partant de ces études faites aux États-Unis, j'ai un peu regardé justement l'état des programmes. Des programmes actuels en France. Donc je n'ai pas fait une analyse approfondie comme Marie-Pierre a pu le faire sur les programmes précédents. Je me suis appuyée sur l'analyse qui a été faite par Monique Dupuis et Jean-Claude Hervé dans l'ouvrage qu'ils ont sorti en 2008 justement sur l'analyse des programmes au collège et au lycée. Donc, en reprenant leurs travaux, en fait, et en résumant un peu le livre, on se rend compte que finalement, ce qui est favorisé actuellement dans les programmes du collège et du lycée, c'est un, la classification phylogénétique, hein, qui apparaît au collège dans le programme 2008 pour la troisième et au lycée, que deux, c'est l'orientation sur le génome, hein, donc avec stabilité, variabilité des génomes et évolution, donc une centration sur ce qui se passe au niveau des organismes, et trois, une importance sur la mise en place d'activités pratiques, hein, à partir de données fournies par la recherche, de données empiriques, en paléontologie, en génétique, l'utilisation d'archives fossiles, des techniques de datation, de phylogénie, d'anatomie comparée, des données moléculaires. Donc, au total, l'enseignement, on peut dire que les auteurs d'ailleurs en parlent, que l'enseignement en France, au collège et au lycée aujourd'hui, est un enseignement empirique. Il y a une centration sur les organismes individuels, donc sur les phénomènes de micro-évolution. L'enseignement est éclaté. Il n'y a pas d'enseignement intégré des théories de l'évolution. Il n'y a pas d'entrée par les concepts, hein, ni d'entrée par l'histoire, l'histoire des idées. Il y a très peu de travail sur l'écologie, sur les milieux, sur les populations, donc pas de génétique des populations comme il y avait dans le programme précédent. D'où les difficultés d'apprendre la dynamique des populations, ni sur les études sur les temps profonds, et notamment sur les événements de macroévolution et de spéciation. Donc beaucoup d'activités pratiques, et c'est vrai que l'INRP a beaucoup travaillé, l'équipe Axel dont je fais partie a beaucoup travaillé sur la mise en place justement des outils et des logiciels adaptés aux activités pratiques, notamment avec le logiciel phylogène. Alors, rapidement, les programmes de collège, très orientés vers la classification, l'identification des êtres vivants, comment reconnaître les organismes vivants pour les identifier et respecter. Donc, il y a une intention quand même de protection de la nature, développement durable, respect de la nature, centration sur la classification, qui est d'abord abordée en sixième sans envisager donc la dimension évolutive qui est complétée au cours du collège et qui est réinterprétée en troisième, c'est le niveau où est explicitement travaillée l'évolution. L'évolution est implicite au collège pendant les trois premières années. Donc on fait un lien entre l'histoire de la vie, l'histoire de la Terre. On introduit l'idée d'un changement qui se produit au cours du temps. On focalise l'enseignement sur la sensibilisation à la démarche scientifique, hein, à la démarche d'investigation, l'observation, donc des méthodes empiriques. Il y a une responsabilité, donc une citoyenneté qui est donnée pour le respect de l'environnement. Et donc un intérêt manifeste aussi pour les progrès de la science. Donc premier niveau de formulation dans le programme actuel, c'est la troisième, donc qui doit, où l'enseignement doit aboutir justement à avoir une explication de l'évolution au niveau génétique. Donc c'est une explication en fait des variations qui se produisent au niveau génétique dans les organismes, et pas au niveau de l'évolution des populations, toujours pareil. Donc comment montrer les relations qui existent entre la transformation de la Terre et celle du vivant, et aussi travailler sur la classification, puisqu'il y a notamment avec l'outil phylogène qui a été adapté pour le collège récemment. Au lycée, tu as parlé des programmes précédents. Donc le programme du lycée date de 2000, il devait être modifié cette année, mais il ne l'a pas été encore. Donc axé sur trois grands thèmes: l'unité et la diversité du monde vivant, les liens de parenté en terminale et la focalisation sur la génétique, biologie moléculaire et relations entre donc ces concepts et l'évolution en terminale. Donc seconde, on passe très vite. Voilà. Donc voilà, j'ai pas fait une analyse plus détaillée de ça, mais disons que les problèmes qui sont la composition des programmes en France finalement correspondent bien à la situation quelque part américaine, où se posent ces mêmes questions sur comment pouvoir faire rentrer dans l'enseignement la théorie elle-même et les concepts afférents. Donc l'objectif de notre travail, c'est donc de travailler sur le savoir lui-même et les concepts de la théorie. Donc on part de notre hypothèse de travail, c'était de partir justement de la connaissance elle-même, des concepts théoriques qui sont utilisés par les spécialistes, et de définir avec eux les concepts essentiels qu'ils utilisent pour travailler en recherche sur l'évolution. Donc d'avoir une, disons, faire un état des lieux sur comment le savoir est construit, comment il est utilisé, quels sont les concepts manipulés par les chercheurs. Ensuite de repérer quels sont les enchaînements logiques entre ces concepts, et pour cela nous avons utilisé un outil qui est très utilisé aussi dans le monde anglo-saxon, c'est la carte conceptuelle. Donc, je vais en parler ensuite. D'utiliser cette carte pour définir les concepts scientifiques comme étant des référentiels pour l'enseignement, et de voir comment se fait le passage de ce savoir en contenu d'enseignement. Alors, bien sûr, il y aura des changements, il y aura des déplacements, la transposition didactique fait son devoir, on va dire. Mais en tout cas, on va essayer de voir s'il y a des oublis, si les programmes ne font pas référence à certains concepts qui sont considérés comme essentiels pour les chercheurs et pour lesquels ils ne pourraient pas se passer pour travailler. Donc, à partir de cet état des lieux, des concepts, entre les concepts scientifiques et ceux qui sont utilisés pour l'enseignement, on va essayer d'avancer dans l'analyse, justement, de la transposition didactique du savoir et de proposer, bien sûr, une remédiation, faire un constat et des conseils pour un petit peu pointer les concepts qu'il manque pour faire pour enseigner l'évolution. Alors, on a utilisé donc je vous disais la carte conceptuelle. Bon, la carte conceptuelle, c'est pas un outil on va dire nouveau, mais finalement il est très peu utilisé en France. Il a été comme ça utilisé à un moment donné et puis pouf, il a disparu. Donc, Éric Triquet pourrait vous en parler plus que moi sur l'histoire de l'utilisation de cette méthodologie. Donc, les cartes conceptuelles ont été imaginées par Novak dans les années 60, lorsqu'il cherchait à comprendre les changements de la connaissance scientifique des enfants au cours des apprentissages. Les cartes conceptuelles sont des outils visuels pour organiser, pour formaliser, pour représenter les connaissances. Ce sont des organisateurs graphiques, donc dans lesquels tous les concepts sont liés entre eux par des liens pour former des réseaux. Parfois, ils sont hiérarchisés, même de concepts plus inclusifs jusqu'à des concepts, on va dire, secondaires. Donc, il permet d'avoir une vue synthétique sur toutes les disciplines qui sont structurées, donc qui permettent d'embrasser comme ça un sujet complexe. Ce sont des outils qui permettent des outils heuristiques qui permettent la compréhension de disciplines complexes. Ce sont des outils aussi qui sont souvent utilisés en groupe. Donc, qui permettent d'établir un dialogue dans une perspective sociale, d'échanger, etc., d'enrichir un petit peu les points de vue et qui sont utilisés dans des contextes aussi particuliers. Donc, il y a une idée quand même, une certaine subjectivité, une contextualisation du travail qui est fait avec les cartes. Ça permet aussi d'identifier et de découvrir vraiment les relations entre des éléments distants entre plusieurs disciplines, par exemple. Alors, j'ai mis une diapo en anglais, hein, c'est pas un problème. J'ai pas mon machin.
Tu bouges plus.
Mais je bouge. Voilà. Donc, carte conceptuelle représente un système de connaissances, d'une organisation de connaissances. Donc, il est. Boum. Constitué de concepts. Je vais vous donner un petit peu les éléments. On ne va pas rentrer à fond dans la carte qui est en fait difficile. Celle-ci, c'est une carte conceptuelle de cartes conceptuelles. Ça représente ce qu'est une carte conceptuelle. Donc, elle est faite de concepts. Les concepts sont des images pour Novak. Je rentrerai après dans la théorie qu'il y a derrière les cartes conceptuelles. Donc, elles représentent des concepts. Pour Novak, les concepts, ce sont des mots, mais ce sont plus que des mots aussi. Ce sont des images mentales, des invariants, on va dire, qui sont à l'origine des mots. Ça peut être des objets, des événements, etc. Ces concepts sont connectés entre eux par des liens qui forment des propositions. Donc, ça, c'est des mots-liens. Voilà. Donc, les mots-liens, ce sont des mots qui servent à relier les concepts entre eux et qui signalent le type de rapport qu'il y a entre les concepts. Les concepts liés entre eux par des mots-liens forment des propositions. Donc, ce sont deux ou plusieurs termes conceptuels, plusieurs concepts qui sont connectés par des mots-liens et qui vont former une unité sémantique ou une unité de signification, et ce sont qu'on appelle des propositions. Ensuite, on va faire des liens croisés. Donc, les propositions entre elles peuvent être reliées aussi. Il peut y avoir plusieurs unités sémantiques qui se relient entre elles et qui forment des liens croisés. c'est une des grandes caractéristiques des cartes conceptuelles selon Nova, qui dit que plus il y a de liens croisés, plus les cartes sont significatives. Ce sont donc des liens croisés en différentes disciplines. C'est ça qui permet d'avoir une vision en réseau des connaissances. Alors, la théorie qu'il y a derrière... Bon, voilà, je vous ai dit les éléments fondamentaux. Alors, la théorie qui sous-tend les cartes conceptuelles de Novak, c'est la psychologie de l'apprentissage de Subbel. En fait, l'idée fondamentale de Subbel, c'était que l'apprentissage de l'enfant consiste à l'assimilation de nouveaux concepts et de nouvelles propositions dans des structures conceptuelles déjà ou des propositions déjà existantes. Et cette capacité se fait surtout par le biais du langage, se réalise essentiellement par un processus d'apprentissage réceptif, par lequel de nouvelles significations émergent lorsqu'il pose des questions et lorsqu'il obtient des réponses, qui lui permettent de faire des relations entre ses anciennes conceptions et les nouveaux concepts qu'il apprend. Et en plus de l'apprentissage réceptif via le langage, l'enfant va mettre en place ce que Subbel appelle un processus d'apprentissage significatif. Donc, l'apprentissage significatif se réalise lorsque l'apprenant travaille sur un domaine complexe, par exemple celui de l'évolution, et cet apprentissage significatif passe par le développement d'une stratégie, cognitive pour apprendre à apprendre. Et c'est une stratégie qui va permettre à l'apprenant de construire une structure conceptuelle faite d'un corps de grandes idées. Donc on retrouve finalement les problématiques actuelles des Américains. Voilà. Qu'il va utiliser de façon consciente, intentionnelle pour résoudre des problèmes et pour apprendre et pour intégrer des nouveaux éléments et pour construire des sens plus riches. Voilà. Donc il y a trois principes dans la théorie d'Obussel. C'est l'organisation hiérarchique de cette structure cognitive qu'il va mettre en place au fur et à mesure, qu'il y a une différenciation progressive des concepts et une conciliation intégrative. C'est un principe qui postule l'existence d'une amélioration dans l'apprentissage, une amélioration progressive lorsque celui qui l'apprend est capable de reconnaître des nouvelles relations entre des groupes reliés entre concepts, des propositions et des concepts. Bon. On ne va pas rentrer dans les détails puisque j'ai plus beaucoup de temps. Alors, comment construire des bonnes cartes conceptuelles selon Novak et toute la communauté qui s'est mise en place depuis dans le monde entier, sauf en France? Et il faut se munir. C'est un processus laborieux, mais qui est facilité aujourd'hui par un tas de logiciels qui ont été mis en place et justement par une communauté du numérique et d'échanges entre spécialistes ou fanatiques, on va dire, du truc. Alors, nous, on a fait d'abord la méthode laborieuse. Parce que on souhaitait travailler avec des scientifiques de l'université Lyon 1, qui ces scientifiques ne connaissaient pas la méthodologie des cartes conceptuelles, et donc il y avait une première approche à avoir pour disons les sensibiliser à cet outil et pour arriver finalement à obtenir travailler avec eux pour faire des cartes. Donc la méthode laborieuse, c'est celle-là. Il faut prendre une grande feuille de papier, il faut organiser une séance avec plusieurs personnes, avoir des petits matériels, des post-it, des stylos, discuter avec eux, voilà, négocier, blablabla. Pour arriver à faire une séance où on leur a demandé à chacun d'énoncer les concepts liés à l'évolution, ça de manière individuelle, ensuite de placer ces concepts sur une grande feuille de papier, de travailler à la réduction du nombre de concepts, de les rassembler pour énoncer des méta-concepts et ensuite travailler ensemble sur une phase de consensus pour relier les méta-concepts et trouver des attributs de lien entre chacun de ces méta-concepts. Donc nous avons fait des séances entre biologistes, entre paléontologues, phylogénéticiens, c'est pas fait, ça a été annulé récemment, entre historiens des sciences et philosophes, et on a un projet avec les formateurs IUFM. Donc c'est un travail qui est en cours, donc qui n'a rien de définitif. Et voilà. Donc pour l'instant, on dispose de 3 cartes, donc j'en ai mis 2 là, qui ont besoin d'être travaillées ensemble, en confrontation entre les différents chercheurs pour qu'il y ait partage des connaissances. Donc ça, c'est une carte qui est intéressante, qui est une carte qui montre le processus de changement de population. Donc là, c'est la définition de ce qu'est une population et la définition de ce qui produit un changement de population tout seul. Et si on fait intervenir l'environnement et le temps, on obtient une diversité de population. Donc ça, c'est une carte qui doit être une carte fonctionnelle sur laquelle on va beaucoup retravailler avec les biologistes, les paléontologues. C'est une carte intéressante parce que finalement, c'est une carte qui, à la limite, modélise complètement le fonctionnement d'une population et le fonctionnement du changement de population. Donc elle est peut-être pas très parlante pour vous, mais c'est quelque chose qui nous tient à cœur et qui tient à cœur aux scientifiques qui ont travaillé dessus, parce que elle les a interpellés dans leur recherche et dans leur enseignement pour présenter leur enseignement d'une autre façon. Voilà. Donc en conclusion, je vous disais que c'était un travail empirique qui demande d'être prolongé sur peut-être pas mal de temps. Les premières conclusions que je pourrais donner, c'est que en fonction des séances de cartes qu'on a pu faire, des séances de remue-ménage qu'on a pu faire collectivement, c'est que en fait elles ont montré vraiment leur force au niveau de la réflexion personnelle, de la réflexion en groupe des personnes qui ont participé. Au niveau du travail individuel, donc au niveau du rendu, on a enregistré les séances, et au niveau du rendu, de la perception qu'ils en ont eue. Au niveau du travail individuel, cette méthodologie s'est avérée très utile, donc pour organiser les contenus, pour visualiser les relations entre les concepts, et puis pour intégrer aussi les connaissances qu'ils utilisent tous les jours et qu'ils ont reliées à leur expérience propre de recherche. Au niveau du travail en groupe aussi, le perçu qui a été, le vécu qui a été donné, c'est que le travail a stimulé la participation, le respect, la négociation, l'interaction, la collaboration entre les différents acteurs. Donc ça a été aussi reçu positivement. Que chacun des acteurs ont fait référence au caractère utilitaire de cette stratégie parce qu'ils vont justement pouvoir la réutiliser. Ça leur a donné envie, eux, en tant qu'enseignants-chercheurs, de concevoir leur propre enseignement d'une autre manière et d'utiliser ces cartes pour réfléchir leur enseignement. Donc, ils ont reconnu que cette expérience a été enrichissante, et ce qui nous incite à poursuivre, notamment sur les cartes de population. Voilà, je vous remercie.